que ve això tinc de ja.
Digo de Radio France
Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Ravi de vous retrouver, bonsoir, bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en anglais, Christina Okello.
Good evening.
Pour suivre la dispute qui oppose le Royaume-Uni à l'île Maurice autour de la souveraineté de l'archipel des Chagos. Lina Luang de la rédaction chinoise. À propos du sommet du forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. Mathieu Vichniak de la rédaction roumaine est également avec nous.
Bonsoir.
Car il y a eu des manifestations de mécontentement en Roumanie et en Moldavie. Bonsoir donc à vous. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine en France, à savoir la rentrée difficile du président et du gouvernement, avec pour le premier une chute de sa cote de popularité, et pour le second, du changement dans l'équipe. Bien sûr, Christina Okello, l'un ne va pas sans l'autre.
Tout à fait Philippe, ce n'est pas du tout la rentrée qu'espérait Emmanuel Macron, qui essuie toujours les retombées de l'affaire Benalla et la gestion chaotique de l'Élysée. À la rédaction anglaise, nous avons regardé l'impact du départ de Nicolas Hulot et dans une moindre mesure, celui de Laura Flessel. Et notre chef du service web, Tony Cross, estime qu'il lui porte un coup dur. Écoutons-le.
Nicolas Hulot and the sports minister who's retired, Laura Flessel.
Donc Tony Cross, Philippe, et il explique que le départ des deux ministres les plus populaires du gouvernement de Macron ne veut pas aider la popularité du chef de l'État à grimper. Rappelons-le, seulement 31% de la population juge son action positive, et ce n'est pas mieux pour le premier ministre Edouard Philippe qui affiche 35% d'opinions favorables. Il ne faut pas oublier que Hulot et Flessel étaient appréciés surtout pour leur vie avant d'entrer au gouvernement. C'est leur engagement, leur sens de la responsabilité, autant des qualités qui étaient louées, juge Cross.
Oui, on dit que ce sont des gens issus de la société civile, puisqu'il
voilà,
ne s'agit pas d'hommes politiques ou de femmes politiques de métier. Parlons donc désormais de l'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. C'était sa volonté de rester fidèle à ses convictions qui a fait beaucoup parler à l'étranger.
Tout à fait, Philippe. Nombreux médias ont diffusé en boucle la vidéo de son entretien sur France Inter, où Nicolas Hulot a annoncé à la surprise de tous sa démission en direct. Et la vidéo était tellement demandée que plusieurs chaînes ont anglaise comme France 24 English l'ont traduit en anglais. Écoutons un extrait de son intervention.
Je vais prendre pour la première décision la plus difficile.
I will make the hardest decision of my life.
Alors, on entend Nicolas Hulot traduit en anglais, voilà. Puisqu'il a donc été diffusé sur votre antenne. Et alors, revenons à ce qu'a dit le ministre.
Donc oui, donc ça change du français, mais bien entendu, il s'agit bien de Nicolas Hulot qui parle. Il explique pourquoi il a quitté le gouvernement. Il expliquait que c'était la décision la plus difficile de sa vie, mais qu'il ne voulait pas se mentir à lui-même et donner l'illusion que sa présence au gouvernement signifiait qu'on est à la hauteur dans la lutte contre le changement climatique, alors que ce n'est pas le cas. La manière avec laquelle il a claqué la porte en direct sans script et surtout avec des larmes aux yeux et une vraie émotion, cela a ponctué davantage son profond désaccord avec le président et donné un sens de crédibilité à ses critiques contre les chefs de l'État, trop timide, juge-t-il, en matière de politique verte.
Trop timide donc en matière d'écologie, une hésitation qui tranche avec la détermination politique pour d'autres sujets dont Emmanuel Macron aime faire preuve.
Et oui, tout à fait, la presse étrangère, Jupiter est descendu de son piédestal, c'est d'ailleurs le titre d'un article dans The Economist de cette semaine. Il faut rappeler aussi que lorsque Emmanuel Macron a été élu, la presse étrangère a raffolé de sa victoire. C'était le nouveau Napoléon qui ne pouvait pas échouer. Tout lui réussissait, comme fonder un nouveau parti et siphonner des députés à droite et à gauche. Mais maintenant, le temps a changé et les éloges ont tari. Même son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pointe son manque d'humilité vis-à-vis du peuple français.
Matej Wichniak, le président français cherche des alliés pour sa réforme de l'Union européenne, ce qui lui permet finalement de marquer des points ailleurs que sur ses points faibles, si je puis dire. Ils ne sont pas nombreux.
Nous avons évoqué dans nos émissions les visites effectuées par Emmanuel Macron au Danemark et en Finlande, mais les pays nordiques ne partagent pas la même vision que Macron, ni sur la politique migratoire, ni sur les propositions de la France concernant le budget commun de la zone euro. Il n'est pas vraiment seul Emmanuel Macron, mais ses ambitions concernant l'Europe sont plombées par la poussée du populisme, du droite et du gauche, de l'extrême droite, des eurosceptiques, des anti-immigrationnistes. On sort du groupe du pays anti-immigrationniste forme actuellement en Europe. Il y avait déjà dans ce groupe certains pays de l'Europe de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque. Le groupe grandit parce que l'Autriche et l'Italie en font partie maintenant. Et dimanche, on aura aussi les résultats des législatives en Suède, où l'extrême droite pourrait devenir la deuxième force politique du pays. Il a deux visions de l'Europe et les élections européennes de l'année prochaine, en mai, représentent un test. Il y a le danger que l'Europe enfante un monstre, c'est-à-dire un Parlement majoritairement eurosceptique, voire anti-européen.
L'Europe avec laquelle Emmanuel Macron espère donc reprendre la main après cette démission de Nicolas Hulot, une démission dont Nina Nwang, les médias en Chine ont parlé.
Oui.
Certains l'ont comparé, Hulot, à un brillant tacticien de l'époque des Trois Royaumes en Chine, c'est au
IIIe siècle.
C'est vous qui me l'avez soufflé, hein, dont la mort suscitait beaucoup de regrets du peuple, car il n'a pas pu finir la bataille contre ses ennemis.
Oui, c'est tout à fait comparable, le regret envers la mort de ce stratège chinois de l'ancien temps et la démission de Nicolas Hulot. Les ennemis de Hulot étaient des défis autour de la dénucléarisation graduelle de la France, de l'interdiction d'utilisation de glyphosate, de protection des animaux, d'empêcher la importation de l'huile de palme qui nuit à la forêt, etc. Sa démission montre une profonde déception et une désillusion envers le gouvernement français que la Chine veille de près depuis que Macron, symbole de révolution, de nouveauté, de rupture avec le passé, était monté au pouvoir. Après la démission de Hulot, la presse officielle chinoise s'exclame sur, je cite, « l'utopie écologique de la France, loin comme les nuages à l'horizon, qui se heurte sur la dure réalité économique ».
Sachant que la Chine est souvent montrée du doigt, décriée comme étant un des principaux pollueurs de la planète. La Chine et la France, Ninan, toutes les deux font partie des pays membres de l'accord de Paris sur le climat. Cela explique le fait que la Chine suit de très près cette démission, Nicolas Hulot.
Oui, c'est vrai. Surtout face aux États-Unis qui se retirent de l'accord de Paris sur le climat, les éditos des presses chinoises n'hésitent pas ces dernières semaines à faire appel à la France de rester sur le bon chemin envers l'objectif de la réduction des émissions. Un journal officiel chinois en France parle d'un choix difficile de la France entre les bureaux de vote et la Terre, notre planète. Il explique que possiblement la France va construire 6 nouveaux centres nucléaires, alors que Hulot pensait au départ à une grande réduction de l'électricité nucléaire. Cette électricité n'est pas verte, mais elle représente jusqu'à 75% de ce que les Français consomment. Ce journal chinois cite ainsi un proverbe en comparant ainsi le travail de Hulot en tant que ministre de l'écologie à un chef de foyer, je cite, « on ne connaît pas le prix réel du riz et du bois de chauffage jusqu'à ce qu'on devienne le chef de foyer. »
Matteï Wichniak, le remplacement de Nicolas Hulot, le remplaçant, c'est donc François de Rugy. Il suscite des doutes, même des critiques. C'est ce que vous avez abordé comme sujet à la rédaction en langue roumaine.
Oui, parce que Nicolas Hulot est une vedette médiatique écologique planétaire, très connue aussi en Roumanie, mais sa portée médiatique n'est pas aussi forte. François de Rugy n'a pas la même portée médiatique, ni peut-être Daniel Cohn-Bendit aurait pu faire le bon rôle. Mais le problème, c'est est-ce que le ministère de la Transition écologique a besoin d'un traitement médiatique différent par rapport à d'autres ministères? Et c'est une question que Jacques Attali se pose dans la revue Express, et je l'ai cité, parce qu'il dit que ce ministère de la Transition écologique devrait devenir un ministère de l'économie positive, c'est-à-dire scruter les décisions prises par les autres ministères pour que, à long terme, ces décisions ne deviennent néfastes, parce que à court terme, oui, elles sont bonnes, mais très souvent, elles risquent de devenir plutôt, disons, négatives.
Nina, l'écologie avec des mesures très concrètes. L'Union européenne a récemment arrêté en avance les sanctions de taxes sur les produits voltaïques importés de la Chine.
Oui, ces produits photovoltaïques chinois sont en général 30% moins chers que les produits de l'Union européenne. Arrêter de les sanctionner susciterait sans doute à nouveau de colère des entreprises européennes, mais la presse officielle chinoise le prend avec confiance en disant que c'est une décision bien verte de l'Europe.
Alors il y a ce remplacement du ministre de l'économie, il y a aussi celui, on en parlait tout au début, de la ministre des sports. Et là, à la rédaction roumaine, ça vous a pas échappé, hein, la nouvelle ministre a un nom roumain, Matteï.
Oui, les Roumains connaissent bien la championne de natation, Roxana Mărăcineanu, en roumain, et toute la presse roumaine a salué cette nomination. Ce n'est pas pour la première fois qu'une personne née à l'étranger est naturalisée ou ultérieurement est nommée ministre en France, mais je pense que c'est pour la première fois qu'une personne née roumain arrive à un tel poste, et puis toute la Roumanie lui souhaite la réussite.
Sachant qu'elle a quitté la Roumanie à l'âge de 9 ans. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du monde.
Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. Le forum sur la coopération sino-africaine au niveau ministériel est un événement qui a lieu tous les 3 ans et cette année c'était Pékin qui a accueilli une cinquantaine de chefs d'État africains, d'autant que le président chinois a promis une aide de 60 millions de dollars pour l'Afrique. Bien évidemment, Nina Nguyen, vous avez largement suivi ça sur votre antenne, cette aide couvrira quel domaine et sous quelle forme ?
D'abord, il s'agit d'un package d'aide et surtout la Chine veut changer son image de vampire qui ne veut que de l'argent ou de ressources naturelles de l'Afrique. Donc, elle a fait particulièrement attention à la diversification des formes d'aide. Les pays africains commencent aussi à s'y sensibiliser. Voici ce que disait le président sénégalais Macky Sall lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en juillet.
Nous allons promouvoir les investissements entre nos deux pays en facilitant la collaboration entre les secteurs privés chinois et sénégalais.
Et voici ce que disait le président chinois Xi Jinping lors du forum sino-africain cette semaine. D'abord, il y a 15 millions de dollars d'aides gratuites, de prêts sans intérêt, de prêts concessionnels. Ensuite, il y a 20 millions de dollars de fonds de crédit, puis 10 millions de dollars de fonds pour le développement financier sino-africain. Ensuite, 5 millions pour financer le commerce d'importation des produits depuis l'Afrique. Tout ça, ça fait 50 millions déjà. Ensuite, les entreprises chinoises devront investir en Afrique pas moins que 10 millions de dollars d'ici 3 ans. Ça fait donc en total 60 millions de dollars.
Puis il y a des chiffres encore plus importants. La Chine a déjà prêté 125 milliards de dollars à l'Afrique de 2000 à 2016. Il y a donc un possible piège de la dette. Alors certains dirigeants africains rejettent ces critiques et d'autres restent plus ou moins méfiants.
C'est vrai. Le risque de dette des pays africains, surtout des pays à faible revenu et en état très élevé, selon un rapport en mai cette année du Fonds monétaire international. Ce risque est dû principalement à la baisse globale du prix mondial du pétrole brut et au fait que les dettes des années 70 touchent à sa fin, mais que l'Afrique n'est pas du tout prête à tout rembourser. L'allègement et le désendettement qui suivent n'ont pas beaucoup aidé sur le fond. Du coup, c'est la dette qui engendre plus de dettes. À l'époque, la Chine n'a pas beaucoup prêté à l'Afrique, mais aujourd'hui, 70% de la dette publique bilatérale du Cameroun est détenue par Pékin. Ensuite, ce pourcentage est de 72% pour Kenya et le Tchad, lui, a vu sa dette publique extérieure bondir de 50 jusqu'à 85% de son PIB seulement en 2 ans. Il accuse Exim Bank, c'est une institution étatique chinoise, d'être derrière cette histoire.
Alors, la Chine se justifie en disant que ce n'était pas elle qui a généré le problème, que les pays occidentaux avaient imposé des conditions de remboursement qui n'étaient pas raisonnables, ce qui fait que ces pays restent toujours endettés.
Pour la Chine et une partie des pays africains, les institutions de Bretton Woods sont les principaux responsables du surendettement sans fin de l'Afrique. Mais la Chine devrait se rendre compte qu'aujourd'hui, elle s'y contribue aussi beaucoup. Et si elle ne freine pas les prêts pour l'Afrique, qui a tendance parfois de tout accepter sans se soucier des ressources naturelles, que la Chine convoite et de l'indépendance politique à l'égard de, par exemple, de maintenir ou non une relation diplomatique avec Taïwan, ça va en tout cas s'enchaîner.
Nina Wang de la rédaction chinoise de RFI. Revenons maintenant avec la rédaction roumaine sur les événements qui ont eu lieu ces dernières semaines, quand des dizaines de milliers de Roumains de la diaspora sont rentrés chez eux pour les vacances, mais également pour participer à une grande manifestation à Bucarest, Matei Vichnec.
Oui, environ 100 000 Roumains ont manifesté ce jour-là contre la corruption et contre l'effacement progressif de l'indépendance de la justice. Cela a été une manifestation organisée par la diaspora, inquiète de la politique menée par le gouvernement social-démocrate. Il faut dire que depuis 15 ans, beaucoup de Roumains sont allés travailler à l'étranger, environ 4 millions sur une population de 20 millions d'habitants. En 2017, ils ont contribué avec plus de 4 milliards d'euros au PIB, produit interne brut. Mais les Roumains ne voient pas en Roumanie les résultats de leur effort. Ils pensent que la Roumanie avance trop lentement, que la corruption dilapide leur travail.
Alors on a vu des milliers de voitures sur les routes avec des Roumains en route vers les grandes villes roumaines, arborant des drapeaux roumains, bien évidemment. Mais la première manifestation à Bucarest a mal tourné.
Oui, il y a eu des provocations, des casseurs, la police est intervenue, on a dénombré 450 blessés, dont une trentaine de gendarmes. Écoutons la déclaration d'un homme politique roumain, Leonard Orban, qui a été le premier commissaire européen roumain et ensuite ministre des Affaires européenne.
Gendarmerie a actionnat un organe de répression, a actionnat fără niciun motiv évident.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
La gendarmerie a actionné comme un organe de répression, a réagi sans aucune raison évidente, sans que le gouvernement ou le siège du gouvernement soit en danger. Pour résumer, pendant des jours et des jours, la polémique a enflé en Roumanie concernant la brutalité de la police, les fausses nouvelles et l'instrumentalisation politique de la violence. Rien n'est simple en Roumanie, mais à mon avis, la diaspora roumaine défend les valeurs européennes et elle honore par ses contestations un certain esprit européen qui refuse l'impunité des dirigeants corrompus.
Un mot sur cette autre manifestation, c'était le 26 août en Moldavie, à Chișinău, organisée par le mouvement de résistance nationale Maintenant.
Oui, les Moldaves aussi sont exaspérés par la corruption et le manque d'horizon de leur pays, 28 ans après la chute du communisme et l'éclatement de l'Union soviétique. Après le temps de la transition, quand tout le monde disait « ça va s'arranger, il faut attendre », nous voilà maintenant au temps de l'impatience. On veut des résultats, ou plutôt une vie meilleure chez soi, en Roumanie et en Moldavie, maintenant.
Matei Vichniac de la rédaction roumaine. C'est un archipel dans l'océan Indien qui, depuis plus d'un demi-siècle, se trouve au centre d'un litige qui oppose le Royaume-Uni à l'île Maurice, laquelle revendique la souveraineté des Chagos et, depuis une semaine, tente de convaincre la Cour internationale de justice de lui donner raison. Christina Okello, nombreux sont les Chagossiens qui rêvent déjà d'un retour chez eux.
Oui, Philippe, car depuis la séparation de l'archipel de Chagos en 1965, 2000 Chagossiens ont été expulsés de leur territoire vers l'île de Maurice et les Seychelles, et ce, pour faire place à une base militaire américaine dans l'île de Diego Garcia. Mais les conditions dans lesquelles les Chagossiens ont été expulsés laissent peu désirer, explique l'anthropologue David Wine, joint par notre consoeur à la rédaction anglaise Laura Angela Bagnetto.
The United States wanted to build a military base in the Indian Ocean. And they struck a secret deal.
Que dit David Wine?
Il raconte comment les États-Unis ont conclu un accord secret avec le Royaume-Uni pour construire une base militaire sur l'île de Diego Garcia, déboursant une enveloppe de 14 millions de dollars pour y avoir accès. Et lorsque l'accord a été formalisé en 1966, les responsables britanniques ont accepté d'expulser tous les indigènes, dont les Chagossiens, qui habitaient sur l'archipel. Il a fallu moins de 10 ans pour les expulser tous du territoire.
Alors, après 50 ans, il y a cette possibilité que les Chagossiens puissent rentrer chez eux. Pourquoi?
Parce qu'ils n'auraient jamais dû partir, selon l'île Maurice, pour qui la cession de l'archipel au Royaume-Uni était illégale, faite sous la contrainte, selon l'ancien président mauricien Anirudh Jugnauth. C'était soit cette option ou le risque de ne pas obtenir l'indépendance en 1965, mais c'était contre la loi internationale qui interdit le démembrement d'une colonie en de petits morceaux. Et aujourd'hui, les arguments de l'île de Maurice gagnent du terrain. Il est important de souligner qu'une vingtaine de pays africains se sont ralliés derrière Maurice et même l'Union africaine qui, pour la première fois, s'est présentée comme une seule entité à la Cour de la justice contre le Royaume-Uni. Pour l'Afrique, l'affaire est importante sur le continent. Elle est perçue comme une bataille de David contre Goliath, Maurice contre le Royaume-Uni pour obtenir enfin son indépendance.
Alors, Goliath, c'est le Royaume-Uni qui perd malgré tout son influence.
Oui, c'est vrai. Cela a commencé déjà en juin l'an dernier. C'est à cette époque que les Nations Unies ont adopté un vote qui a ouvert la voie à ces litiges aujourd'hui. Et lors de ce vote, 65 pays, dont de nombreux membres de l'Union européenne, comme la France et l'Allemagne, se sont abstenus. Et pour Philip Sands, l'avocat général de Maurice, il n'y a pas de doute, Brexit est passé par là. Écoutons-le.
Not a single EU member state. Supported the United Kingdom. And that is, I think,
et Philip Sands explique qu'il y a eu une hémorragie de soutien européen marquée par une forte abstention des anciens alliés du Royaume-Uni et cela montre bel et bien que Londres n'a plus la capacité à rallier derrière lui aux Nations Unies. Pire encore, lors de la réélection du nouveau juge à la Cour de la justice, le juge britannique, qui a toujours été réélu sans problème, s'est vu débouté pour la première fois dans l'histoire. Sands dit que c'est la conséquence directe du Brexit. Le Royaume-Uni a bel et bien essayé de présenter des excuses pour l'expulsion des Chagossiens, mais exclut tout de même un retour des anciens habitants de Chagos et leurs descendants. La Cour de la justice est prévue de livrer son avis sur l'affaire en avril prochain, juste après l'enclenchement du Brexit.
Voilà, l'avenir des Chagos, c'est sur RFI, dans Accent du Monde et nulle part ailleurs. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité du monde sur Radio France Internationale.